Bonjour et bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons évoquer le dispositif des clauses d'insertion dans les marchés de travaux ainsi que les clauses d'insertion dans les marchés de services. Pour cette émission, je suis venue accompagnée de notre partenaire de l'ARIC BTP, Monsieur Thierry Breton, bonjour.
Bonjour Audrey.
Et également la facilitatrice en charge des marchés de services sur le dispositif des clauses à Creative, Madame Solène Mastro-Rio. Bonjour Solène.
Bonjour Audrey. Audrey, pour démarrer l'émission, je vous propose de nous dire quelle est l'utilité du dispositif des clauses d'insertion.
Oui, alors les clauses d'insertion représentent un des dispositifs de lutte contre le chômage et l'exclusion. Elles n'ont pas une vocation occupationnelle pour les personnes en difficulté d'insertion, mais il s'agit bien de s'inscrire dans une dynamique sociale, économique et d'emploi sur un territoire.
Et alors, qui sont les publics concernés par ce dispositif ?
Le public visé à travers les clauses d'insertion est large. Cela peut être des jeunes de moins de 26 ans sans qualification, des demandeurs d'emploi de plus de 12 mois, des bénéficiaires des minima sociaux, des travailleurs handicapés et toute personne rencontrant des difficultés particulières dans son accès ou retour à l'emploi.
Comment ça se passe exactement, Audrey ? Qu'est-ce qu'un facilitateur clause d'insertion ?
Alors, dans le cadre de sa démarche d'achat socialement responsable, le maître d'ouvrage peut inscrire ses exigences en termes d'insertion sociale et professionnelle dans son marché et en faire une condition d'exécution obligatoire. C'est le maître d'ouvrage qui, à travers le support juridique du marché, fonde et légitime l'intervention du facilitateur auprès de l'entreprise. Le facilitateur a un rôle central auprès des maîtres d'ouvrage, acheteurs d'une prestation et également auprès des entreprises pour les modalités de mise en œuvre de la clause. Le premier rôle, c'est le rôle et les relations du facilitateur avec les donneurs d'ordre. Il agit du coup à plusieurs étapes. Alors, soit au moment du recensement des achats, au moment de la définition du besoin, au moment du lancement de la consultation. En fait, le facilitateur apportera les éléments juridiques nécessaires à l'intégration et à la rédaction de la clause sociale dans le dossier de consultation. Également, durant la phase de consultation, dans cette période d'élaboration de réponses par les entreprises, le facilitateur de la clause sociale est aux côtés du maître d'ouvrage afin de répondre aux questionnements des entreprises. Puis, au démarrage de la prestation, le maître d'ouvrage informe le facilitateur des entreprises attributaires du marché et il le convie à la réunion de démarrage afin que la prise de contact soit effective.
Et avec les entreprises ?
L'une des principales fonctions du facilitateur auprès des entreprises est de préparer une solution d'insertion qu'il pourra ensuite présenter à l'entreprise. Pour l'essentiel, il s'agit pour lui d'identifier les personnes et les structures qui peuvent être mises en relation directement ou indirectement avec l'entreprise. Il est clair que le facilitateur est l'interlocuteur principal de l'entreprise et que son rôle est important au moment du choix de la solution d'exécution de la clause.
C'est le chef d'orchestre.
Tout à fait, Thierry. L'entreprise peut lui demander conseil. En tout état de cause, le facilitateur doit agir en toute neutralité et objectivité. L'entreprise donc peut avoir recours soit à l'embauche directe ou à la mise à disposition de personnes. Selon l'option choisie, le rôle du facilitateur ne sera donc pas le même. Donc pour ce faire, dans le cadre des marchés de travaux, Creative s'appuie sur son partenaire l'ARIC BTP pour l'identification et validation des candidats auprès des entreprises attributaires de marchés closés. Pour en savoir plus, Thierry de l'ARIC BTP, pouvez-vous nous présenter l'ARIC ?
Ça veut dire Association Régionale d'Insertion et de Qualification dans le bâtiment et les travaux publics en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes à la fois une association et un organisme de formation créé et géré par le BTP, la profession du bâtiment et des travaux publics. Cette année, nous allons fêter nos 30 ans. Voilà. Donc l'ARIC est une ancienne maison dont la mission principale est d'insérer durablement des demandeurs d'emploi dans les métiers du BTP après des périodes de stage ou d'essai en entreprise et puis souvent avec des plans ou des contrats de formation qui permettent d'amener à la qualification des gens qui ont besoin de se former afin d'être opérationnels sur les chantiers du BTP.
D'accord, très bien.
Voilà ce qu'est l'ARIC en gros, hein, mais on a beaucoup de missions. Hein.
D'accord. Du coup, quel est le rôle de l'ARIC sur le dispositif des clauses d'insertion ?
Creative nous conventionne depuis quelques années déjà sur 4 axes principaux. Le premier de ces axes, c'est de recevoir le public orienté dans le dispositif clause. Alors, je parle uniquement des marchés de travaux BTP, bien sûr. Recevoir ces personnes et les valider sur le dispositif ou éventuellement les réorienter si on estime qu'ils n'ont pas les prérequis nécessaires pour intégrer les chantiers du BTP. Voilà. Le deuxième axe, c'est un axe d'explication de la clause auprès des entreprises qui sont nos partenaires et depuis toujours, et de présentation de candidats par rapport à la clause qui est à réaliser sur tel type de chantier. Le troisième axe, c'est le suivi de ces personnes sur chantier afin de mesurer comment ils se comportent, comment ils évoluent et quelles sont éventuellement les carences dont ils souffrent et comment on peut y remédier avec des plans de formation de façon à ce qu'ils deviennent de plus en plus compétents dans le métier qu'ils ont choisi. Et puis le quatrième et dernier axe qui pour moi est le plus important, c'est la consolidation dans l'emploi, parce que ce dispositif, il a pour vocation de faire embaucher des demandeurs d'emploi dans les métiers du BTP afin que ces personnes ne soient plus des demandeurs d'emploi, mais que ce soient des gens qui travaillent comme tout à chacun.
Très bien, merci pour ces éclairages. Concernant l'axe 2 et les entreprises dont vous nous parliez, quelles sont les modalités de mise en œuvre qui sont proposées aux entreprises ?
Alors, le dispositif sur Dijon Métropole est très, très abouti, hein, puisqu'il existe depuis pas mal d'années. Vous l'aviez dit, en 2003, on a démarré avec le Zénith, qui est un premier gros chantier closé. Il y a plusieurs possibilités. L'entreprise, une fois qu'on lui a présenté un candidat et qu'elle a choisi d'intégrer ce candidat dans le cadre de sa clause d'insertion, peut passer soit par les ETTI, les entreprises d'intérim d'insertion. Hein, il y en a deux à Dijon qui sont partenaires du dispositif, c'est Eureka Intérim et ID Intérim. Les entreprises peuvent passer aussi par des contrats classiques, CDD, voire même CDI, hein, quand le parcours est validé. Et puis, ils peuvent passer aussi par des contrats avec formation, type contrat de professionnalisation, que la RIC BTP peut leur proposer. Puis, on a un autre partenaire qui est le GEC BTP, hein, groupement d'employeurs du BTP, qui est aussi un outil de notre secteur professionnel et qui permettent de faire aussi des contrats via le GEC afin de faire sa clause d'insertion. Donc il y a tout un panel de possibilités. La RIC peut mettre même en place quelques stages de découverte pour avant de valider vraiment un parcours dans une entreprise. Voilà, c'est toutes ces choses qu'on peut mettre en place.
Merci beaucoup. Donc vous nous direz, en fait, les entreprises ont presque l'habitude sur l'agglomération dijonnaise de faire appel.
Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui depuis un long moment pratiquent la clause d'insertion sur leur marché. Tout ça est bien rodé. Et on a régulièrement des embauches dans le cadre de la clause dans le BTP. Hein. Donc c'est vraiment un levier qui est connu et reconnu maintenant.
Merci beaucoup Thierry. Objectif croissance, l'émission animée par Creative. Aujourd'hui, nous échangeons sur le dispositif des clauses sociales. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment se déroule le dispositif des clauses d'insertion dans les marchés de services. Solène Mastrorio, vous êtes facilitatrice sur les marchés de services à Creative. Pouvez-vous nous dire ce qu'on entend par marché de services ?
Oui, alors les marchés publics de services sont donc des marchés conclus avec des prestataires de services qui ont à avoir pour objet la réalisation d'une prestation de service. Ce ne sont donc pas des marchés de travaux ou des marchés de fournitures qui concerneraient plutôt des achats ou des locations de produits ou de matériel. Très concrètement, pour vous donner des exemples de marchés de services, nous allons trouver des marchés de nettoyage, des marchés d'entretien d'espaces verts ou encore de restauration collective, de blanchisserie également, de gardiennage ou encore de prestations administratives. Et je ne suis pas exhaustive sur cette liste de marchés de services. Concrètement, les marchés de services ont leurs propres spécificités. Ils vont être plus longs que les marchés de travaux. Généralement, ce sont des marchés d'un an, renouvelables 3 ans. Mais on peut aussi trouver donc des marchés de services beaucoup plus longs, qui vont être de l'ordre de 10 à 12 ans. Ce sont souvent des marchés structurants pour le territoire. Je vais vous citer par exemple le marché de conception, réalisation, entretien et maintenance de gestion de l'espace public de Dijon Métropole, la ville connectée avec le projet On Dijon, ou bien encore la délégation de services publics qui va concerner la mobilité sur l'ensemble du territoire dijonnais.
Très bien, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous avez développé les clauses d'insertion dans les marchés de services ?
Alors, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, Audrey, les clauses d'insertion dans les marchés de travaux a débuté sur le territoire fin 2003. Et avec les marchés de travaux, on a pu faire travailler des demandeurs d'emploi dans un bon nombre de corps d'État du BTP et principalement toucher des hommes via ces marchés. On se devait d'impulser, en fait, avec les donneurs d'ordre, le développement des clauses d'insertion dans les marchés de services afin à la fois de toucher une typologie de demandeurs d'emploi plus large, par exemple les femmes, mais aussi d'être en capacité de proposer via le support des marchés publics d'autres métiers que ceux du BTP. Et c'est donc à partir de 2011 que la clause d'insertion dans les marchés de services a commencé à se généraliser.
Comment vous dimensionnez la clause sociale dans ce type de marché ?
Concernant donc cet aspect de dimensionnement, de calibrage de clause d'insertion dans les marchés de services, la réforme du Code des marchés publics de 2015 et le décret de 2016 ont conforté, si vous voulez, la notion de responsabilité de l'acheteur dans sa politique globale d'achat socialement responsable. Les marchés de services, contrairement aux marchés de travaux, vont pouvoir offrir davantage l'opportunité d'élargir cette palette d'achat socialement responsable. Et au sujet donc du dimensionnement de cette clause d'insertion dans les marchés de services, on va questionner particulièrement la volonté politique. On va demander à notre donneur d'ordre quelle typologie de demandeur d'emploi il souhaite faire travailler via son marché. Est-ce qu'il souhaite plutôt réserver son marché au secteur du handicap ou bien aux travailleurs défavorisés par le biais de structures d'insertion par l'activité économique? Est-ce qu'il souhaite que tout type d'entreprise puisse répondre au marché? Enfin, on va également s'appuyer, comme dans les marchés de travaux, sur des données plus techniques du marché pour dimensionner la clause. On va s'intéresser à la technicité de la prestation effectuée, à la part de main-d'œuvre, mais également à la durée du marché et au montant du marché.
Vous pouvez également nous éclairer sur les marchés d'insertion et de qualification professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par ce type de marché ?
Oui, alors Audrey, les marchés d'insertion et de qualification professionnelle représentent en fait une réelle opportunité qui doit être encouragée pour un bailleur ou une collectivité, prendre en compte en fait des publics plus éloignés de l'emploi parce que les entreprises classiques ne peuvent pas les accueillir dans le cadre de marchés de travaux ou de services avec une clause d'insertion. Il s'agit en fait de prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi, de formation ou d'expérience préqualifiante, qualifiante ou encore certifiante. Ces prestations vont prendre appui donc sur des activités de production ou de service qui vont être des activités support des prestations d'insertion. Il faut en fait retenir que l'achat de prestations d'insertion doit respecter les fondamentaux de la démarche d'insertion, qui sont l'encadrement technique, l'accompagnement socio-professionnel et la formation. Ce qui importe, c'est in fine bien la démarche d'insertion professionnelle. Audrey, peut-être pour conclure, pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur le dispositif des clauses d'insertion en 2018 ?
Oui, alors sur 2018, il a été réalisé plus de 350 000 heures d'insertion sur le territoire de l'agglomération dijonnaise. Il y a eu 28 donneurs d'ordre qui ont été partenaires du dispositif, 121 entreprises qui ont été accompagnées et 753 salariés concernés par le dispositif. Tout au long de cette émission, nous avons pu constater que ce dispositif est un véritable levier pour l'emploi. Il est facile à mettre en place par le biais des facilitateurs. Je remercie Thierry Breton et Solène Mastrorio pour leur participation.
Merci.
Merci Audrey.
Pour aller plus loin sur le dispositif des clauses d'insertion, vous pouvez consulter le site internet de Créative sur www.creative21.fr. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.